Le cinquantenaire de l'indépendance, on en parle dans le service.
Mardi 22 juin, émission spéciale en direct de la commune de Matete. De 9h à 11h, retrouvez-nous au quartier Mango 1 et participez à l'émission.
50 ans d'histoire, ça se partage dans le service. Mardi 22 juin, en direct de Matete à partir de 9h sur Radio Capi.
Il arrive qu'une ou plusieurs personnes décident de s'associer ou de créer une entreprise, comme je l'ai dit en sommaire. Pour que cela puisse être reconnu légalement, il faut avoir une personnalité juridique. Par ailleurs, il est également reconnu à tout être humain une personnalité juridique physique dès sa naissance. Que faut-il entendre par personnalité juridique et quelle procédure suivre pour l'obtenir? Nous vous invitons, chers auditeurs, à participer à cette émission pour faire vos témoignages et également nous dire ce que vous avez vécu par rapport à cette question. Composez les 081-890-63-94. Nous avons dans ce studio Guylain Malher, juriste. Rebonjour, Monsieur Guylain Malher.
Bonjour, Monsieur JR. Bonjour.
Alors, la première question, quelle différence faites-vous entre une personnalité physique et une personnalité morale?
Oui, merci beaucoup. Dans un langage simple, la personne physique, c'est tout individu, tout être né, vivant et viable, comme vous et moi. Ça, c'est la personne physique. C'est ce qu'on appelle communément un être humain. Et, tandis que la personne morale, c'est une fiction juridique qui fait que l'on considère un groupement de personnes ou d'individus, ainsi que leurs biens, comme ayant une existence propre différente de ses fondateurs. Et ce groupement-là a une personnalité, ce qu'on appelle morale. C'est ça, une personne morale. Donc, un groupement de personnes avec leurs biens qui a la capacité d'avoir un patrimoine propre, qui est assujetti à des droits et qui a des obligations et qui est donc considéré comme une entité différente des personnes qui l'ont créée. C'est ça la personne morale. C'est une fiction, c'est une abstraction juridique.
À une personne physique, peut-on exiger une personnalité physique, une personnalité juridique physique?
En principe, non, parce que la personne physique a sa personnalité juridique qui est liée à elle dès qu'elle vient à l'existence. Il est même prévu dans la nouvelle loi portant protection de l'enfance, la loi du 10 janvier 2009, si ma mémoire est bonne, que même au sein, dans le ventre de sa mère, maintenant l'enfant est considéré comme un sujet de droit, donc a une personnalité juridique et protégé, a donc des avantages légaux qui lui sont reconnus. Donc un être physique n'a pas à chercher une personnalité juridique, elle est là dès qu'elle existe en tant que personne.
À tort ou à raison, d'autres personnes pensent que le certificat de naissance fait office d'une personnalité physique.
Exactement. Quand vous lisez la loi portant protection de l'enfant, je crois que cette question a été résolue dans la mesure où l'on parle, je crois, de l'existence juridique. Il s'agit de la protection juridique de l'enfant. Le certificat de naissance donne une identité à l'enfant, une sorte de protection de son identité. Par contre, la personnalité juridique, elle vient du fait qu'on est né de nature humaine. Donc, dire que du fait que l'enfant n'est pas enregistré chez l'officier de l'état civil, cet enfant n'a pas encore la personnalité juridique, c'est une petite erreur, à mon avis.
Ben alors, je vous fais une parenthèse rapidement, peut-être pour éclairer la lanterne des auditeurs qui nous suivent à l'est du pays. Nous avons connu un cas tout récemment, des dames qui ont suivi leur mari militaire en Ouganda, arrivées sur place, disons, ces derniers n'ont pas accepté, d'autant plus que pour eux, il n'y avait pas de mariage. Est-ce qu'on peut dire les enfants qui sont nés de cette union entre Congolaise et un Ougandais, d'où ces enfants avaient droit à une nationalité, à une personnalité physique ougandaise?
Oui, merci beaucoup, J.R. Je crois que la difficulté pour nos éditeurs risque de provenir du fait qu'on n'a pas défini la personnalité juridique elle-même.
Oui.
Donc, sa définition est très simple. La personnalité juridique, c'est la capacité ou l'aptitude à être titulaire des droits ou à être assujetti à des obligations. Dès que l'on est apte à être titulaire des droits que l'on peut revendiquer ou à être assujetti à des obligations que l'on doit respecter, eh bien, on a la personnalité juridique. Donc, vous comprenez par là que une personne qui vient à l'existence a des droits, est sujet de droits. Et donc, par rapport à cela, à la personnalité juridique. Donc, pour revenir maintenant à la préoccupation sur
les enfants congolais, ougandais.
Oui. Donc, la loi est très claire, qu'il soit né dans ou hors le mariage, l'enfant a des droits qui sont protégés par la loi, est sujet de droit, et par rapport à cela, a une personnalité juridique pleine.
Donc, ils doivent bénéficier de la nationalité ougandaise.
Congolaise ou ougandaise? Ça dépend de la loi du pays concerné. Il y a ici chez nous, par exemple, nous c'est les droits de sang. Pour être congolais, il faut être né d'un parent congolais. Il y a des pays où je ne sais pas très bien que dit la loi ougandaise, qui reconnaissent le droit du sol, le jus soli. Le fait d'être né sur un territoire donné vous donne des droits à la nationalité de ce pays. Et donc, si c'est ainsi que la loi ougandaise est faite, ces enfants sont donc de droit ougandais.
Okapi Service rend service à nos auditeurs qui nous suivent. Ils sont nombreux, qui nous appellent de partout, en tout cas à travers le pays et aussi à l'extérieur du pays. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Laurent Milonga, qui nous appelle de Kikwit. Bonjour Laurent.
Bonjour, les joueurs.
Quelle est votre préoccupation par rapport à ce sujet sur la procédure à suivre pour obtenir une personnalité juridique? Mais la première question, avez-vous connu une difficulté devant une instance judiciaire par rapport à cette question?
Oui. Trop de difficultés, c'est pour dire que il nous arrive surtout à la campagne d'organiser un groupe de gens pour un assainissement d'un village ou les entretiens des routes. Mais là, alors pour officialiser le groupe, il nous arrive que le secteur ou une autre personnalité d'officialiser d'autres des histoires quand vous allez fracasser la population, ainsi de suite. Alors, je voulais savoir quels sont les premiers documents à avoir pour officialiser un tel groupe.
Voilà, donc si je comprends bien, Laurent Milonga parle d'une personnalité morale. C'est un groupe de gens qui travaillent. Maître Maléré, que répondez-vous à cet auditeur?
Bon, ça dépend. S'agissant des personnalités morales, il faut préciser ici qu'il y en a de plusieurs sortes. Ça dépend de la nature et de la forme de la personnalité morale qu'ils entendent mettre en place. Mais si je comprends bien, il s'agit de groupes, de gens qui se mettent ensemble pour des travaux communautaires. Et donc, la formule la plus simple, c'est de créer une association sans but lucratif. À ce moment-là, la première démarche à faire que nous pouvons conseiller à notre auditeur, M. Laurent Milonga, de Kikwit, c'est de rédiger des statuts. Il faut avoir des statuts dans lesquels on a la dénomination du groupe, on a les animateurs, les organes de ce groupe, les attributions de chaque organe, etc. Et puis ces statuts doivent être passés devant le notaire de la ville de Kikwit, ici il y en a, ou alors à Bandundu-Ville. C'est la première formalité, il faut créer le groupe, il faut un statut par lequel les membres fondateurs s'entendent sur la nature du groupe qu'ils veulent créer. Et ce statut doit être passé devant le notaire. Ensuite, les autres formalités continuent en province. Pour les associations sans but lucratif, il est prévu que celle-ci est enregistrée auprès des services du gouverneur de province. Et c'est le gouverneur de province qui accorde l'autorisation provisoire de fonctionnement en attendant que le dossier soit envoyé à Kinshasa auprès du ministre de la Justice pour l'obtention de la personnalité juridique. Schématiquement, voilà comment
c'est. Vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. N'hésitez pas à composer les 081-890-63-94. Nous parlons de la procédure à suivre pour obtenir une personnalité juridique. Peut-être que vous avez connu un cas de ce genre devant n'importe quelle instance judiciaire et qui a prêté confusion. N'hésitez pas, appelez-nous.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Est-ce que Maître Malère, on peut malérer, allais-je dire, plutôt, est-ce qu'on peut avoir deux personnalités juridiques morales dans une même organisation?
Non, la personnalité juridique est inhérente à la structure même, à l'entité même. On a une seule structure et une seule personnalité juridique ou on ne l'a pas. Donc, on a la personnalité juridique ou on ne l'a pas. On l'a selon qu'on a accompli les formalités prévues par la loi. On ne l'a pas lorsqu'on n'a pas rempli ces formalités. Alors, en ce moment-là, on est une personne de fait. je suis en train de parler ici des personnes morales, étant donné que pour les personnes physiques, le problème ne se pose pas. On a la personnalité juridique dès qu'on est vivant et viable.
Oui, j'ai juste pris deux personnes en train de discuter sur la nature juridique d'un syndicat. Est-ce qu'un syndicat qui défend, par exemple, la cause des travailleurs ou peut-être d'un groupe de commerçants ou de petits commerçants peut avoir une personnalité juridique dûment obtenue auprès du ministère du Travail ou du ministère de la Justice?
Et effectivement, le syndicat comme personne morale, n'est-ce pas, lorsqu'il est constitué selon les règles prévues par la loi, a une personnalité juridique qui lui permet justement d'agir en tant qu'entité autonome distincte des membres qui le composent. Et donc par rapport à cela, le syndicat légalement constitué, effectivement, est dûment agréé par le ministère du Travail pour les syndicats du secteur privé. Et je crois pas le ministre de la Fonction publique pour les syndicats du secteur public sont effectivement dotés de la personnalité juridique.
Donc, il faut que c'est passé d'un document obtenu auprès du ministère de la Justice.
Non, c'est ce que je viens de dire ici. Je dis que les syndicats, ce n'est pas une ASBL à proprement parler. Les syndicats ont une loi particulière qui les organise. Et c'est là qu'ils relèvent du secteur privé.
Donc, ils ne font pas partie de groupes associatifs.
Oui, en général, d'une manière générale. Mais s'agissant de la loi qui organise les régimes de concession des syndicats, il y a des lois particulières pour les associations syndicales, des types syndicales.
Voilà, on revient à notre auditeur qui est en ligne, Samy Mbangou de Lubumbashi. Bonjour Samy.
Bonjour Radio Kassi.
Vous nous appelez de Lubumbashi, quelle est votre préoccupation? Est-ce que vous avez déjà connu un problème, disons déjà, autour de la question sur la personnalité juridique devant une instance judiciaire?
Je commence ma question centrée au niveau de la sanction, parce que vous dites que la personne morale était un groupe de personnes. Maintenant, quelle est la sanction que la loi a déjà prévue pour ce genre de personnes qui violent le droit aux obligations d'autres personnes, tant physiques que morales?
Voilà, donc vous voulez dire que vous avez déjà connu une telle situation dans un groupe donné?
Oui, ça, nous avons déjà connu ça, des problèmes dans différentes juridictions de la place. Nous avons des entreprises publiques, des établissements publics, tout comme des organisations qui préjudicient des personnes physiques. Mais il se pose un petit problème au niveau de la sanction, étant donné que c'est un groupement moral. Mais la sanction, ça réside à quel niveau?
Voilà, Maître Maléré.
Merci beaucoup. Je sens que M. Samy est un technicien du domaine. Effectivement, nous avons dit tout à l'heure que la personne morale, c'est une notion abstraite, c'est une fiction. Donc la personne morale qui est en tant que groupement, en tant qu'entité, n'est pas comme une personne physique que l'on peut appréhender comme ça. Effectivement, il arrive que des personnes morales nuisent aux intérêts des particuliers. Et par rapport à la sanction, s'il s'agit d'un dossier civil, le problème ne se pose pas. La personne morale a un patrimoine sur lequel on peut prélever, n'est-ce pas, la quotité destinée à payer les dommages d'intérêt, par exemple. On peut saisir les comptes de la personne morale pour obtenir des dommagements, on peut saisir ses biens et les vendre, n'est-ce pas, par la voie de la justice pour dédommager la personne lésée. Le problème se pose lorsqu'il s'agit des faits infractionnels, étant donné que pour les infractions, il y a certaines peines que l'on ne peut pas infliger aux personnes morales, parce que ce sont des abstractions. Mais il convient ici de relever que les personnes morales agissent par la voie de leurs organes. Et ces organes sont souvent des personnes physiques. Il peut donc arriver que lorsque la personne physique est intervenue personnellement, elle commette une faute personnelle qui appelle que la sanction soit dirigée vers l'organe, particulièrement l'organe de gestion. Mais effectivement, à part les amendes, les autres peines qui impliquent la privation des libertés, etc., sont matériellement impossibles à infliger à une personne morale.
Oui, mettre malheur, les curieux qui sont éparpillés à travers le pays aimeraient un tout petit peu savoir s'il y a un délai que la loi accorde, la loi congolaise, ou la législation congolaise accorde à une organisation de fonctionner avant d'obtenir une personnalité juridique. Est-ce qu'il y a un délai?
Bon, ça, je disais encore une fois que il y a plusieurs formes d'organisation, il y a plusieurs formes de personnes morales. La situation qui intéresse, je crois, le plus le public, c'est celle des Asbels, l'association à but lucratif. Bon, il est prévu que lorsque l'autorisation provisoire de fonctionnement est obtenue auprès du ministre ayant le secteur d'activité en charge, eh bien, l'association introduit son dossier auprès du ministre de la Justice. Et le délai, c'est 6 mois. Et ça, c'est l'article 5 de la loi de 2001 portant disposition générale applicable aux ASBL et aux établissements publics, qui dit que l'autorisation provisoire qui est accordée donc par le ministre du secteur d'activité a une validité de 6 mois. Donc, en dehors de 6 mois, le ministre de la Justice est censé accorder la personnalité juridique à l'association. Et là, il y a un alinéa, l'alinéa 3, je crois, de l'article 5 qui dit ceci et qui est ignoré du grand public, c'est que passé ce délai de 6 mois, la personnalité juridique est censée octroyer, dit la loi. Donc, ce qu'on vous demande, vous les requérants, c'est d'introduire votre dossier dans le délai. Et c'est un délai butoir pour le ministre de la Justice qui est censé accorder la personnalité juridique en dehors des 6 mois. Sinon,
il y a tout des frais à payer.
Bien entendu, l'État, c'est un service public, et donc il y a des taxes en contrepartie du service qui est rendu par l'État. Et globalement, selon les informations que j'ai pu recueillir auprès d'agents de la deuxième direction au ministère de la Justice, s'occupe des ASBL par exemple, ces frais pour l'agrément, pour obtenir la personnalité juridique, sont de 80$, et auxquels il faut ajouter des frais bancaires qui vont aux environs de 10$, ainsi que des frais administratifs qui furent fixés par le secrétaire général à 30$ à peu près. En gros, donc, avec 120$ officiellement, on obtient la personnalité juridique en introduisant aussi tous les actes requis en annexe de la requête.
Oui, à en croire vos propos, Maître Maléré, une personnalité juridique est vraiment indispensable.
Oui,
elle est d'une importance très capitale.
Tout à fait, JR, c'est bien de le relever pour les auditeurs de Radio Capi, dans la mesure où, nous l'avons dit, la personnalité juridique donne à l'entité des droits et des obligations. Alors, par rapport aux droits, c'est très important parce que, par exemple, si vous n'avez pas la personnalité juridique, vous ne pouvez pas ester en justice pour réclamer, pour faire valoir un droit. On vous dira, votre action est irrécevable parce que vous n'êtes pas doté de la personnalité juridique, vous ne pouvez pas agir en justice. Et beaucoup d'associations ont comme ça perdu des droits. Lorsqu'elles viennent chercher la confirmation de ces droits en justice, on leur dit, on ne vous écoute même pas parce que juridiquement, vous n'existez pas. Donc, c'est très important. Et bon, il y a aussi, même par rapport au fonctionnement ordinaire des associations, par exemple, si vous n'avez pas la personnalité juridique, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque. Et beaucoup des bailleurs posent comme condition préalable avant de traiter avec une association le fait d'avoir la personnalité juridique qui permet aux bailleurs de pouvoir vous allouer des fonds, sachant que ces fonds sont alloués non pas à des individus, personnes physiques, mais à une entité bien déterminée qui existe juridiquement. Donc le défaut de personnalité juridique est un grand handicap pour le développement et le fonctionnement des
associations. Oui, on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre servitude. Aujourd'hui, nous avons vu des associations fonctionner et, disons, à l'aide des statuts. Généralement, au niveau des derniers articles, on mentionne en cas de conflit, nous allons nous référer aux cours des tribunaux. Ça, c'est bien mentionné. Mais quand on se présente devant les cours des tribunaux, on se rend compte que ces associations n'ont même pas, ne possèdent même pas une personnalité juridique. Là, ça complique les choses.
Exactement, JR. J'espère de tout cœur que les auditeurs vous ont suivi. Il ne suffit pas d'écrire dans les statuts qu'en cas de conflit, on ira devant les cours des tribunaux. Encore faut-il que vous ayez la capacité d'essayer devant ces cours des tribunaux. Et c'est la personnalité juridique qui vous donne cette capacité. Si vous n'avez pas la personnalité juridique, les cours des tribunaux ne vous entendront même pas. Donc, vous serez bloqué au niveau même de la forme, de l'entrée en matière. Et c'est vraiment dommage. Mais attention ici, les droits des particuliers sont quand même protégés par la loi. Vous voyez comment le législateur est prévoyant. Il y a aussi des malins qui, sachant qu'ils n'ont pas de personnalité juridique, n'est-ce pas, violent les droits des tiers. Eh bien, lorsque on vous attrait en justice, lorsque vous êtes accusé, vous ne pouvez pas dire là-bas que non, je n'ai pas la personnalité juridique, on ne peut pas m'attraire en justice. Là-bas, à ce moment-là, les tiers ont les droits d'option. Ils ont le droit de vous considérer comme une personne juridique. Donc, lorsque vous êtes accusé, eh bien, la justice s'occupe de vous et vous condamne. Mais lorsque c'est vous l'accusateur, la justice ne vous écoute pas. Donc, il faut avoir la personnalité juridique.
Il faut avoir la personnalité juridique. Eh bien, alors, une autre curiosité, Maître Maléré, c'est en rapport avec, parce que vous avez parlé de droits et obligations, qui constituent d'ailleurs les clous de cette personnalité juridique. Est-ce que le mariage aujourd'hui, et les contrats de mariage, peuvent être également considérés comme une personnalité juridique de conjoint ou de marié. Parce qu'en cas de conflit, ils peuvent aussi aller devant les instances judiciaires.
Non, pas au sens strict. Comme vous savez, le mariage crée ce que le code de la famille appelle un ménage. Mais le ménage en tant que tel, en tant qu'entité, ne peut pas se présenter au niveau de la justice pour agir en tant qu'entité différente de ses initiateurs, de ses créateurs. Donc par rapport à cela, le ménage n'a pas la personnalité juridique au sens que nous sommes en train de développer ici. À ce moment-là, les époux agiront en leur nom personnel, les deux époux. Il en est de même d'ailleurs des héritiers dans une succession, bien que la succession soit comme une masse de biens avec les héritiers, mais lorsqu'ils agissent à titre individuel, c'est avec leur personnalité juridique de personne physique. Vous voyez, donc il n'y a pas une loi, c'est la loi qui octroie la personnalité juridique à un groupement d'individus.
Ça vous intéresse, la procédure à suivre pour obtenir une personnalité juridique? Appelez-nous au 081-890-394.
Le cinquantenaire, on en parle dans l'émission Dialogue entre Congolais. En juin, chaque jeudi, spécial bilan et perspective. Jeudi 17, la santé et l'éducation. Jeudi 23, la sécurité. Et enfin, le 30 juin, bilan sur le plan politique.
50 ans de politique, ça se raconte dans Dialogue entre Congolais sur Radio Capi.
On va peut-être éclairer la lanterne des acteurs non étatiques, ce que nous appelons communément les ONG, surtout celles qui opèrent dans les secteurs humanitaires. Dans bien des cas, ils trouvent comme prétexte le fait de travailler dans les secteurs humanitaires pour être dispensés de l'obtention d'une personnalité juridique. Est-ce que c'est le cas?
Non, pas du tout. D'abord, il faut noter que l'ONG, l'organisation non gouvernementale, est une variété d'associations sans but lucratif. Et en tant que telle, elle est soumise, par rapport à sa constitution, aux règles communes à toutes les associations sans but lucratif, et particulièrement en matière d'obtention de la personnalité juridique. Je parle ici des ONG congolaises. Eh bien, elles doivent aussi faire comme toute ASBL, rédiger des statuts, les notarier, et, n'est-ce pas, obtenir l'agrément du ministre ayant le secteur d'activité en charge, introduire le dossier auprès du ministre de la Justice pour avoir la personnalité juridique. Donc sans la personnalité juridique, les mêmes sanctions, l'inefficacité, est opposable aux ONG. Alors la nuance, c'est par rapport aux ONG non gouvernementales étrangères. La loi dit que celles-ci ont leur personnalité juridique telle que obtenue dans la loi de leur pays d'origine, mais à condition qu'elles obtiennent préalablement ici en République démocratique du Congo l'autorisation de fonctionner au Congo qui est octroyée par le président de la République. Et donc, sans cette autorisation de fonctionner, la loi est claire, l'ONG étrangère n'a pas le droit d'ester en justice et donc il lui sera opposé l'irrecevabilité de ses actions en justice si elle n'a pas l'autorisation de fonctionner au Congo.
Donc la procédure se fait là, aucune organisation n'est exemptée.
Aucune, alors toutes celles qui fonctionnent sans avoir cette autorisation de fonctionner pour les ONG étrangères et celles qui n'ont pas la personnalité juridique pour les ONG congolaises, eh bien, n'existent pas en tant que personne juridique au sens de la loi congolaise, malheureusement.
Maître Maléré, nous allons peut-être revenir sur cette question un peu plus tard, une question d'intérêt au niveau peut-être national et pourquoi pas aussi international. Nos auditeurs pourraient peut-être nous envoyer encore des questions qui restent encore en suspens. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup J.R. Lungembo pour votre expertise dans la matière. Merci à Radio Okapi. Merci à Marcel Ngombo et à toute l'équipe de Radio Okapi. Merci beaucoup.